Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous parlons de mobilisation des ressources financières pour renforcer le commerce intra-africain. Comment favoriser les échanges commerciaux entre pays du continent en y mettant les moyens qu'il faut? Nous évoquons largement le sujet avec notre invité. Ce sera dans quelques minutes. Et nous parlerons également des défis qui attendent le nouveau patron de la banque panafricaine Afreximbank. Il s'agit de la banque africaine de l'import-export qui a récemment tenu ses assemblées annuelles à Abuja au Nigeria. Quels sont donc ses défis pour booster le commerce intra-africain? Nous en parlerons dans cette émission. Tels sont les principaux sujets de Coémergence. Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Dans le Zoom Express, nous parlons de production et de consommation d'huile culinaire et alimentaire en Afrique. Est-ce que les économies africaines transforment vraiment ou suffisamment leurs matières premières dans cette filière? Nous en parlons avec Djamilatou Sow, qui est la patronne du comptoir commercial Retour à la Maison, CCRM, qui est active donc dans ses activités, puisqu'elle dirige donc cette entreprise spécialisée dans la culture de tournesol et sa transformation sur toute la chaîne. Bonjour à vous, Djamilatou Sow, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est avec plaisir. Merci à vous.
Plaisir partagé. Nous sommes aussi avec Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, qui connecte les diasporas africaines et les différentes diasporas basées en Afrique pour donc favoriser les investissements. Bonjour à vous, Moustapha El Bouri.
Bonjour.
Donc, avec vous, nous allons parler de ces huiles culinaires et alimentaires transformées en Afrique. Alors, tout d'abord, Djamilatou Sow, parlez-nous du comptoir commercial Retour à la Maison.
Alors, Comptoir commercial Retour à la Maison aujourd'hui est une structure qui développe la culture du tournesol au Sénégal. Ça veut dire pionnier de cette culture au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes la première entreprise qui a décidé de cultiver le tournesol au Sénégal, sachant que les huiles de tournesol sont importées majoritairement au Sénégal, donc aucune production locale. Nous nous sommes dit, mais pourquoi pas ne pas le faire au Sénégal? Et c'est de là qu'on a cherché à avoir un agronome spécialiste dans ce domaine qui a fait la formation à nos agronomes sénégalais qui aujourd'hui suivent toutes les différentes étapes, à savoir la semise, la germination, la floraison, la pollinaison et aujourd'hui la phase récolte. Mmh. Donc nous visons à monter une unité de production qui va nous permettre de maîtriser toute la chaîne de production, mmh, à savoir de la culture à la transformation, donc de la graine à la bouteille et, mmh, de la fourche à la fourchette.
Mmh. De la fourche à la fourchette. Alors, ce marché est-il africain ou plutôt étranger par rapport à ses débouchés?
Alors, aujourd'hui, je pense que l'ambition de CCRM, en tout cas sur les 5 années à venir, c'est de s'internationaliser. On va d'abord maîtriser le marché sénégalais, après passer dans la sous-région. Donc, on a de grands besoins sur ces pays également, mm-hmm, qui eux aussi importent majoritairement. Mais nous visons vraiment à s'internationaliser dans les années à venir.
Mm-hmm. Donc, objectif donc export et s'internationaliser. Alors, Moustapha El Bouri, justement, parlez-nous de cette filière-là en Afrique et de son potentiel, notamment en termes de culture et de transformation.
Oui, Omar. Déjà, pour donner quelques chiffres, il faut noter que le marché africain des huiles alimentaires, au jour d'aujourd'hui, est estimé à environ 8 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et tous les experts du domaine, ils s'attendent à ce qu'ils atteignent au minimum 11 milliards d'ici 4-5 ans. Donc, c'est vrai que c'est un marché très, très important. Maintenant, il y a beaucoup de, c'est vrai, il y a beaucoup d'huile alimentaire sur le continent. Et bon, il faut noter que c'est vrai que la principale huile qui est utilisée au jour d'aujourd'hui, c'est l'huile de palme, qui est bon, bien sûr, qui est transformée. Mais maintenant, le consommateur cherche d'autres huiles aussi, parce que chaque huile a ses vertus. Je pense que Diamil Atou nous en dit un peu plus. Bon, l'huile de tournesol est très connue pour aller riche en oméga 6, par exemple. Donc, le marché de l'huile alimentaire sur le continent, il présente un potentiel de croissance qui est très, très important. Mmh. On parle de croissance à 2 chiffres annuels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la transformation, on transforme, à part, encore une fois, à part l'huile de palme, les autres huiles ne sont même pas transformées, même pas à 5%. Et là, il faut savoir aussi qu'il faut quand même pas mal de graines. Diamil Atou, je pense qu'elle pourra nous le dire aussi. Oui. Il faut vraiment près de 2,5 à 3 kilos de graines pour 1 litre. Donc, il faut produire de la graine là derrière. Mm-hmm. Mais la demande aujourd'hui, la demande en graines tournesol en Afrique, c'est vrai qu'elle est vraiment largement supérieure à la production actuelle. Mm-hmm. Faut savoir aussi que l'Ukraine, c'est l'Ukraine et la... Et l'Ukraine et la Russie qui assurent 90% d'exportation d'huile tournesol sur l'Afrique. Mmh. Et bon, avec ce qui se passe aussi en Ukraine actuellement, donc c'est vrai qu'on a eu quelques soucis.
Mmh. Voilà, peut-être, exactement. Alors justement, Diamil Atou Sow, vous qui êtes la patronne du comptoir commercial Retour à la Maison, le CCRM, alors est-ce la culture de tournesol justement ou de ces de ces graines qui produisent les différentes huiles, est-ce facile à réussir ou bien à maintenir pour avoir un bon rendement sur le continent?
Alors, le rendement du tournesol est de 40%. Donc, comme l'a si bien dit Mostafa, ce n'est pas un grand rendement. Mais compte tenu de toutes ces valeurs nutritionnelles, nous, on a décidé de se spécialiser dans ce domaine parce que je crois profondément que le succès ne se mesure pas seulement en termes de chiffres, mais aussi en termes d'impact qu'on peut avoir. Donc, on sait qu'au Sénégal, on utilise beaucoup, beaucoup l'huile. Donc, moi, je me suis dit, je vais produire une huile de qualité, donc à savoir le tournesol, qui a beaucoup de vertus nutritionnelles. Donc, le rendement n'est pas énorme, mais nos terres sont très adaptées à cette culture. Pour le tournesol, il faut du soleil. On en a suffisamment en Afrique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Le tournesol s'adapte généralement à tout type de sol. Par exemple, un exemple, d'habitude, on fait la semis du tournesol en mai. Mais au Sénégal, on a osé le faire en janvier et on a eu de beaux résultats, juste parce qu'on a suffisamment de soleil.
Justement, disons, les conditions climatiques sont favorables au développement de ces cultures.
Très favorable.
Donc, alors, Mustapha El Bouri, en termes d'investissement, voyez-vous un intérêt des investisseurs par rapport à cette filière-là et peut-être en termes de rentabilité, qu'est-ce qui s'y dégage?
Oui, Omar, en fait, je pense qu'il faut noter qu'il y a deux choses. Il y a l'huile qui est cosmétible. Donc ça, c'est bien sûr, comme vous l'avez noté, c'est vraiment une opportunité pour tous les entrepreneurs agricoles africains de créer des entreprises qui sont rentables, bien sûr. Mais moi, je pense aussi qu'il y a aussi l'autre partie, parce que toutes les cosses, par exemple, les cosses de tournesol, des graines, là, elles sont également utilisées. Elles sont utilisées pour fabriquer les aliments des animaux, pour faire du cirage, même du cirage, on fait du charbon de bois avec. Donc, je pense que, justement, il y a un grand intérêt des investisseurs dans son domaine, parce qu'en fait, on arrive vraiment à renforcer toute la chaîne de valeur de ce produit-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a l'huile, c'est vrai. Mais tout le reste aussi peut être utilisé justement pour combler ce que disait Diamil Atou, le rendement qui n'est pas très, très élevé. Mais il y a ça aussi donc à travailler. Donc je pense que c'est vraiment un intérêt certain pour les investisseurs. Et comme disait aussi Diamil Atou, on a les terres qu'il faut. Il faut noter aujourd'hui que l'Afrique, c'est vrai qu'on le répète souvent cette phrase-là, l'Afrique a la capacité de nourrir le monde, et ce qui est vrai. Parce qu'aujourd'hui, elle détient... près de 70% des terres arables non exploitées dans le monde. Donc, en fait, le potentiel, il est énorme.
Le potentiel est énorme. Une dernière question pour Diamil Atou Sow. Avez-vous des besoins d'investissement aujourd'hui pour une expansion beaucoup plus rapide?
Alors, oui, clairement. Surtout si on vise à s'internationaliser et aussi à ravitailler toute l'Afrique. En tout cas, aujourd'hui, comme l'a si bien dit Mustapha, il y a beaucoup de dérivés sur le tournesol. Rien n'est jeté parce qu'après extraction de l'huile, on a les tourteaux du tournesol. On peut faire du miel de tournesol. On peut faire du beurre de tournesol. Donc, rien n'est jeté et c'est quand même, si on le compare en tout cas aux importations, le fait de s'industrialiser est beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus rentable, clairement. Mais oui, on vise à, en tout cas, à une expansion de cette unité.
Donc, c'est à suivre. Merci à vous, Djamila Toussou. Je rappelle que vous êtes la patronne du comptoir commercial Retour à la Maison CCRM, qui est spécialisé dans la production et la transformation du tournesol. Vous nous parliez donc de cette expérience-là. Merci également à Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, qui connecte les investisseurs de la diaspora. Merci d'avoir été avec nous dans Coémergence.
Merci, à très bientôt.
À très bientôt.
Coémergence. L'invité.
Nous avons le plaisir de retrouver le directeur des rédactions de Media Mania, qui édite entre autres l'agence panafricaine Ecofin, Idriss Lindje. Idriss Lindje qui analyse pour nous les principales évolutions des secteurs économiques et de la finance, donc du continent. Aujourd'hui, il est question de commerce intra-africain. Bonjour à vous, Idriss Lindje, encore une fois, et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Idriss, avant tout, avant de parler du commerce intra-africain, il y a une actualité qui vient des États-Unis par rapport donc au rapatriement des bénéfices des entreprises américaines. Ceci pourrait porter un impact, en tout cas avoir un impact sur le commerce intra-africain peut-être, mais surtout sur la présence des multinationales sur le sol africain. Je fais référence surtout aux multinationales américaines. Parlez-nous-en, Idriss Lindje.
Bonjour Omar Baldé et bonjour aux auditeurs de Média 1 Radio. C'est une excellente question, en effet, qui n'a pas été couverte parmi les médias africains. En réalité, le GILTI, en anglais, Global Intangible Low Tax Income, est une disposition fiscale qui a été introduite aux États-Unis en 2017 lors du premier mandat de Donald Trump, mais le processus a poursuivi son cours, même avec la présidence de Joe Biden. Comme le taux d'impôt aux États-Unis était autour de 21%, des multinationales américaines préféraient loger les filiales qui consolident les revenus dans des territoires où on ne paye pas d'impôt. Okay? Donc Trump leur a permis de faire ça afin qu'ils rapatrient cet argent-là aux États-Unis et que cet argent vienne renforcer l'épargne qui va permettre d'investir sur le territoire américain. C'était très bien pensé pour les États-Unis, sauf qu'il existe parallèlement un accord mondial qui a été durement négocié, d'abord par les pays riches de l'OCDE, ensuite ils ont inclus les pays du Sud global, notamment les pays africains, sans d'ailleurs leur demander leur avis sur comment ça se passe. L'OCDE a adopté un impôt minimum de 15%, a mis en place des mesures qui permettent que si une entreprise, finalement, ne paye pas 15%, qu'on puisse pouvoir récupérer le supplément qui n'a pas été payé. Évidemment, c'était très critiqué, ça ne fonctionne pas du tout. Les pays africains sont toujours perdants, mais au moins, il y avait l'idée d'un accord global pour un impôt minimum. Et là, les Américains disent, ils n'en veulent pas. Ils ont leur propre mécanisme de calcul de l'impôt des multinationales. Or, ce mécanisme de calcul positionne l'impôt entre 10,5% ou alors 13,5%. Donc, du coup, on a un système fiscal désormais à double vitesse où les Américains pourraient ne pas payer l'impôt qu'il faut et où des entreprises pourraient pouvoir se relocaliser aux États-Unis parce qu'ils veulent bénéficier de cette juridiction à faible fiscalité. Et le G7 leur a donné cet avantage.
Alors, ce sont des explications intéressantes. Cela dit, quelles sont les implications pour l'Afrique, justement, d'une actualité qui semble si éloignée du continent?
Donc, on n'a pas encore fait des calculs, mais il est certain que si on soustrait les Américains, qui ont la plupart des multinationales, de l'impôt minimum qu'il faudrait payer par les multinationales, il y a une grosse cagnotte qui sera perdue, surtout qu'aujourd'hui, les nouveaux marchés frontières, ce ne sont plus les marchés européens, ce sont les marchés du sud global. Les marchés européens sont complètement matures. C'est des marchés comme l'Afrique, c'est des marchés comme l'Asie du Sud-Est, c'est des marchés comme l'Amérique latine. Donc, on a besoin que les multinationales américaines qui exercent une activité économique dans ces régions payent le juste impôt pour que ces pays-là aussi soient capables de se développer, soient capables aussi de pouvoir accorder à leur population le droit d'accéder à l'école, le droit d'accéder à la santé, le droit d'avoir des logements, le droit pour les femmes de pouvoir être facilitées dans leur rôle de pilier des ménages, notamment dans le cadre des unités structurelles familiales. Donc, avec dans cette disposition, les États-Unis renforcent leur éloignement des cadres globaux des discussions en vue d'une coopération fiscale. Et c'est tout simplement dommage parce que aujourd'hui, la faiblesse de la fiscalité est au cœur même des problèmes de sous-développement dans le monde.
Idriss Lindier, vous parlez de la difficulté à mobiliser des ressources et justement, cela permet de revenir sur la mobilisation des ressources financières pour le commerce intra-africain. Quelle corrélation faire entre cette actualité fiscale et les ambitions d'une banque comme Afrexim Bank, par exemple, qui a récemment tenu son assemblée générale à Abuja, au Nigeria, c'était en fin juin dernier.
Dans le cas d'Afrexim Bank, pour arriver à ça, Afrexim Bank, finalement, c'est une banque qui a été mise en place parce qu'on s'est rendu compte que le commerce intra-africain ne pouvait pas être continué de financer par les Exim Bank China, Exim Bank US, Exim Bank India. Il fallait qu'on ait notre propre banque de financement de l'import-export. Et cette institution a fait un travail formidable. Au cours des deux décennies qui viennent de s'écouler, elle a mobilisé pratiquement 200 milliards, 250 milliards d'ailleurs, pour financer les économies africaines. Mais aujourd'hui, elle a besoin davantage de mobiliser. Elle a prouvé qu'elle est capable de créer un boost dans le commerce intra-africain. On a vu de grandes entreprises, notamment dans le secteur de l'industrie comme Dangote Industries, avancer sur un certain nombre de chantiers grâce à des soutiens d'Afreximbank. On a vu, par exemple, des banques être capables aujourd'hui d'accorder davantage de crédits pour le financement du commerce grâce à des appuis d'Afreximbank. Donc, on a besoin aujourd'hui d'une véritable banque qui a véritablement des moyens. Et malheureusement, Afreximbank, qui a traversé des moments extrêmement compliqués avec des difficultés à lever des financements parce qu'on a compté quand même dans les périodes du Covid, dans les périodes, par exemple, de la crise en Ukraine, où les choses coûtaient complètement plus chères, est parvenu non seulement à mobiliser des ressources qu'il fallait, mais aussi à mettre en place un ensemble d'infrastructures de financement du commerce qui était de nature à permettre qu'elle puisse pleinement jouer son rôle. Et là, maintenant, elle est dans une phase de transition où, malheureusement, les choses se sont compliquées. Les priorités pour les partenaires de développement sont en train d'être définies. La guerre commerciale est en train de créer de l'incertitude. Et donc, oui, d'une certaine manière, peut-être que ce n'est pas corrélé, mais cette deuxième actualité intervient au même moment où l'un des plus grands acteurs économiques mondiaux est en train d'avoir une stratégie conservatrice, une stratégie d'enfermement, et il va falloir évidemment trouver des alternatives. Heureusement, Afreximbank Bank parvient tant bien que mal à trouver des alternatives en Inde, en Chine, et peut-être, comme cela a été conseillé durant son assemblée générale annuelle, peut-être dans des pays du Moyen-Orient.
Vous l'aurez dit, Idriss Lindier, Afreximbank Bank a désormais un nouveau président. Comment le voyez-vous face aux défis actuels, notamment de baisse des opportunités de financement et tout ce qui concerne aujourd'hui la hausse du taux du commerce intra-africain?
Alors, est-ce que Georges Elombi, qui est devenu le nouveau président d'Afreximbank Bank, je rappelle, est d'origine camerounaise, mais il a suivi un cursus dans les plus grandes universités, notamment au Royaume-Uni. Est-ce qu'il est capable, lui, aujourd'hui, de naviguer dans ces nouveaux défis? Beaucoup de gens pensent, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais beaucoup de gens pensent qu'il sera une certaine continuité par rapport à Benedict Orama, qui a passé 10 ans à la tête de cette institution. On peut dire des choses, on peut ne pas être d'accord avec certaines choses qu'il a faites. Mais on ne peut pas refuser que Benedict Obama a quand même été un leader très important pour cette institution. En tout cas, dans cette étape de l'institution, Benedict Obama a été très important parce qu'il a vraiment navigué l'institution dans un contexte qui était extrêmement compliqué. Et il est parvenu quand même à faire que l'institution puisse être une entité de référence au sein de l'écosystème du financement du commerce africain. Donc, oui, on peut penser qu'avec George Elombi, on assistera à une certaine continuité, certainement avec sa propre touche personnelle, mais on verra aussi une Afreximbank qui finalement aura l'opportunité de finaliser ce qu'elle a positionné comme étant une perception. Il y a de l'opportunité là d'ailleurs. Au cours de cette même assemblée générale, Africa Finance Corporation nous disait qu'il y a près de 4 000 milliards de dollars de ressources qui ne sont pas encore utilisés pour le financement de l'infrastructure ou même du commerce en Afrique. Ça reste un montant modeste, mais quand on voit que sur les 4 000 milliards, il y a pratiquement 2 500 milliards de ressources bancaires, et quand c'est que les ressources bancaires peuvent avoir un effet multiplicateur, donc on peut estimer un potentiel de ressources qui peut être autour même de 25 000, 30 000 milliards qui peuvent permettre à développer des segments comme le commerce, l'infrastructure et tout le reste. Et oui, nous pensons donc que voilà, c'est plutôt très bien qu'il y ait un leadership à Afreximbank qui sera en même temps une espèce de continuité, mais surtout de la continuité dans la dynamique de transformation.
Merci à vous, Idriss Lindje, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions de Media Mania, qui édite entre autres l'agence panafricaine Ecofin. Vous nous parlez depuis Cotonou au Bénin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.